question. Je suppose que plusieurs d'entre vous se sont présentés à notre financement flexible ou bien à nos webinaires de renforcement de capacité MOWIP. Et voilà la totalité de la liste de webinaires que nous avons créés pour avoir la participation des pays contribuants, les organisations de l'ONU, les collègues du PNUD et les collègues des missions de l'ONU aussi. Donc, la dernière session ou le dernier webinaire a été conçu comme un webinaire général, une session de questions-réponses pour tous les modes de financement. Et ce que nous aimerions faire aujourd'hui, je pense que la façon dont la session d'aujourd'hui va marcher, c'est que nous allons faire le point sur les sujets que nous avons couverts et que nous avons inclus aussi dans les réunions que nous avons menées. Et ensuite, nous allons ouvrir la scène pour les questions-réponses et nous allons également inviter les collègues du secrétariat et du point focal du projet parce que pour qu'ils précise quelques points clés qu'ils aimeraient mentionner parce qu'ils ont reçu quelques questions durant les réunions check-in, les réunions de enregistrement, quelques annonces techniques pour la traduction, pour l'interprétation vers le français ou l'arabe ou bien l'espagnol. Veuillez cliquer sur l'icône en forme de map monde qui se trouve en bas de votre écran et sachez que vous allez avoir de l'interprétation seulement si vous nous rejoignez depuis l'audio de votre ordi. Ce webinaire sera enregistré dans les quatre langues disponibles et il se mettra à disposition de vous durant la semaine prochain. Une autre annonce pratique, c'est que si jamais vous avez des questions qui sont spécifiques à votre projet particulier ou bien qui sont spécifiques à la situation de votre pays, aux règles de vos pays, ça peut être lié à, par exemple, la signature d'un protocole d'accord ou bien les règles et les normes d'un pays liées aux achats, par exemple, pour que nous puissions fournir un exemple détaillé et pour que nous puissions comprendre votre situation de manière détaillée, nous vous demandons de nous vous prions de adresser cette question durant les réunions individuelles que nous allons avoir avec chacun d'entre vous. Donc, nous allons passer aux points clés que nous avons discutés lors de nos webinaires et aussi dans nos réunions de lancement. Vous voyez la liste des sujets que nous avons décrits et nous nous sommes réunis avec la plupart des projets avec lesquels nous avons travaillé lors du troisième cycle de programmation. Nous allons parler des délai pour le développement de votre projet. Dans ce sens, nous avons essayé de gérer les attentes parce qu'il y a plusieurs pièces qui bougent pour pouvoir avoir un produit final pour le comité de pilotage du fonds d'initiative de ELSI et pour le financement des ressources. Nous avons expliqué notre site Internet en matière de où vous pouvez retrouver toute la documentation du projet pour le financement flexible et pour les modèles. Et nous espérons pouvoir télécharger les lignes directrices aussi pour vous. Pardon, mais il y a un peu de bruit dans le canal. Nous avons également parlé des processus de due diligence. Nous avons également parlé du transfert d'argent, des fonds et les prérequis pour cela en matière de chaque projet ou lié à chaque projet. Donc, pour le HRDDP, rappelez-vous que là où les fonds seront virés à une organisation militaire ou policière, et cela peut être aussi un centre de formation pour le maintien de la paix, il y a un prérequis de traverser un HRDDP pour les transferts d'argent là où les fonds sont virés directement à une organisation militaire ou bien policière, que ce soit une HACT ou bien si nous travaillons avec un bureau des pays orienté aux femmes, il faut mener une évaluation de capacité de risque, mais il faut aussi effectuer une évaluation financière du partenaire d'implémentation. Nous avons fait un parcours de prérequis pour la signature d'un mémorandum d'accord, un protocole d'accord. C'est là où les fonds seront virés directement au gouvernement. Et nous avons aussi passé en revue là où les fonds sont virés à un fonds de l'ONU, un programme de l'ONU, par exemple un bureau des femmes de l'ONU ou bien une mission de l'ONU, le prérequis pour la signature d'un mémorandum d'accord. Un des points importants que nous avons remarqué et que nous allons continuer à décrire, ce sont les prérequis des rapports pour le fonds de l'initiative ELSI concernant notre cadre de suivi et d'évaluation. Et les rapports, les suivis de projets sont quelque chose de fondamental. Et c'est quelque chose que nous allons faire entre le deuxième et le troisième cycle de programmation. Nous allons recueillir des données financières de manière trimestrielle. Donc, cela va permettre de suivre de très près comment les projets sont en train d'allouer les ressources. Et lorsque l'on arrive au rapport annuel, le rapport sera plus facile à créer parce que nous avons fait cette évaluation intérimaire à chaque trimestre. Nous allons aussi parler de avoir un design organique pour que tout le monde dans l'équipe du projet comprenne ses responsabilités et ce qu'ils doivent faire. Et dernièrement, mais ce qui est très important, nous avons également parlé de l'importance de assurer le leadership militaire ou policier depuis les plus hauts niveaux, c'est-à-dire ces personnes-là doivent être engagées dans la mise en place des activités et ils doivent comprendre pourquoi le projet a été conçu de la manière dont il a été conçu et pour que ces projets, on espère de atteindre, quels sont les objectifs pour chaque projet. Ça, c'est une autre chose que ces personnes-là doivent comprendre. Quelques leçons clés, quelques observations depuis ma perspective en tant que gestionnaire du projet, comme responsable du projet. J'aimerais souligner pour toutes les équipes de projet l'importance d'avoir une équipe de gestion de projet qui soit vraiment forte. Il faut avoir quelqu'un qui peut remplacer le gestionnaire du projet, c'est-à-dire une personne qui peut remplacer le project manager si nécessaire. Ce qui s'est passé durant les premier et le deuxième cycle. Donc, cela va fournir d'une quantité de redondance dans vos projets. Et il faut avoir un peu de redondance aussi, par exemple, s'il y a des gens qui prennent leur congé ou aussi pour les prérequis de désignation. Une autre partie qui fait partie de cette équipe forte de gestion de projet, c'est de s'assurer d'avoir des individus dans votre équipe qui appartiennent au département légal, au département de communication, au département financier et aussi depuis de votre département de HR stratégique pour que durant votre réunion de lancement et vos réunions de démarrage, vous allez avoir ces personnes qu'il faut incorporer dans votre product et votre plan financier, votre plan de communication, si votre projet implique des aspects de formation ou de ressources humaines. C'est le cas de la plupart des projets pour avoir ces réunions initiales pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont à contribuer au projet, pour qu'ils comprennent de manière précoce ce que le projet va faire. Cela va nous aider à nous assurer qu'il n'y aura pas de délai lorsque votre product final sera signé au niveau pays ou au niveau mission. Pour que le leadership ait une compréhension forte de ce que le projet vise à accomplir et pour qu'il n'y ait pas de délai, pardon, en matière d'obtenir les signatures. Deuxièmement, il faut avoir de façon positive et percutante de gérer votre information de projet, c'est-à-dire la gestion d'information du projet ou les démarches de gestion d'information dans votre équipe de pays. Il faut avoir des SOP, c'est-à-dire des procédures standards d'opération en matière de stockage d'informations sur votre projet pour que tout le monde dans l'équipe ait de l'accès. Pour que tout le monde puisse gérer ces informations dans le même endroit. Lorsque vous avez votre projet, que ce soit une réunion du comité de pilotage, d'une équipe technique ou de mise en place d'un projet, il faut enregistrer les procès-verbaux et il faut assigner, octroyer les tâches aux individus pour que ces individus se portent responsables de tout cela. Donc voilà les deux points clés que j'ai à mentionner et en tant que gestionnaire du projet. Et nous, en tant qu'équipe de gestion de projet, nous utilisons ces principes-là très responsablement au sein de notre équipe aussi. Ce sont des leçons que nous avons observées et qui ont été notées dans nos projets aussi, dans nos équipes de gestion projet, lorsque nous leur avons demandé qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre, pour mitiger les délais des projets. Maintenant, je vais ouvrir la scène pour les questions de la part de nos participants. Donc, s'il vous plaît, levez la main si jamais vous avez des questions et nous serons ravis de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Merci. Donc, peut-être pour commencer, ce que je vais faire, s'il n'y a pas de questions en ce moment et pour vous donner un peu de temps pour que vous y réfléchissiez, je vais demander aux membres du secrétariat de l'initiative LC et de nos points focaux du projet pour qu'ils ouvrent leur micro, pour qu'ils se présentent et fournissent quelques observations et en quelques orientations sur la base de ce qu'ils ont appris dans les réunions de démarrage dans chaque de nos équipes. Je vais inviter mon collègue Suparva, tu as la parole. Merci. Merci à toutes et à tous. Bonjour. Quelque chose que j'aimerais dire, ce sont les questions sur les processus HRDDP et HACT pour les pays qui peuvent en avoir besoin. Je crois que l'initiative LC va soutenir les deux processus pour les TPCC qui requièrent HACT et HRDDP, mais nous allons le faire de façon virtuelle. Donc, il ne faut pas se préparer pour les visites au sein du pays. Donc, les points focaux pour chacun de vos pays seront en contact avec vous pour en discuter et pour planifier la réunion en virtuel. Et deuxièmement, j'ai reçu quelques questions sur les besoins d'un compte bancaire séparé spécifiquement pour les TPCC ou pour les pays qui travaillent à travers des modalités de financement spécifique. Donc, nous avons suggéré que le fait d'avoir un compte bancaire séparé va aider lorsqu'il s'agit des rapports trimestriels et annuels parce que nous demandons d'avoir des états bancaires comme rapport financier pour chaque trimestre et aussi pour la fin de l'année, surtout pour les rapports annuels, pour éviter des opérations financières qui n'appartiennent pas au financement de l'initiative. Et ici, donc, nous vous demandons d'avoir un compte bancaire séparé. Donc, je pense que comme meilleure pratique, nous vous encourageons à avoir un compte bancaire séparé pour l'initiative ELSI. Merci.
Merci beaucoup. Merci, Suparva. Florence, allez-y. Bonsoir, bon après-midi. J'ai quelques questions que vous avez mentionnées. La possibilité de poser des questions par rapport aux politiques de sécurité nationale que nous avons en force. La mission est bénéficiaire, a des bénéficiaires directs du projet. Donc, par rapport aux réformes du secteur de sécurité nationale, tout cela est lié directement avec le projet. C'est pour cela qu'il faut parler de différence. Est-ce que nous parlons de ce projet en particulier ou bien d'autres projets? Parce que ces projets sont pour les bénéficiaires. Merci beaucoup, Florence, pour cette question. Pour les projets des pays, nous n'avons pas encore lancé les projets des pays. Et c'est quelque chose que nous voulons discuter en détail dans cette réunion-là de lancement, parce que de cette manière, nous pourrons assurer l'évaluation du comité technique du projet. Nous avons plusieurs questions qu'il faut répondre par rapport à ces projets et nous devons mieux comprendre ce qui se passe avec le projet et comment les bénéficiaires seront abordés, etc. Donc, je crois que cette question mérite une exploration approfondie des différents aspects dans cette réunion initiale, si vous êtes d'accord. Parce qu'il s'agit d'une question très, très spécifique de la mission. Oui? Je voulais savoir les activités du projet. Il y a plusieurs barrières, mais il faut indiquer dans la partie de l'évaluation des obstacles, l'évaluation des barrières, est-ce qu'il faut mentionner toutes les barrières ou celles que l'on va aborder? Dans le cadre de résultats, les barrières ou les obstacles que le projet a soulignés et que nous allons considérer, c'est pour nous permettre de voir les preuves qui visent à souligner les obstacles, les défis, les barrières, et pour mieux les comprendre et pour mieux les comprendre, il y a des questionnaires qui ont été complétés pour vraiment comprendre de manière approfondie, comprendre la participation des femmes dans les activités, des missions ou bien les barrières ou les obstacles. Par rapport aux conditions de vie ou de travail dans la mission. Pour concevoir des activités pour aborder ces barrières, il faut tout d'abord les identifier et en parler. Donc, à travers le cadre de résultats, on pourra voir comment une activité spécifique pourra éliminer ou réduire ces obstacles et pouvoir le mesurer pour que les buts qu'on a établis soient atteints et les différentes activités. Et également, comment mesurer les différentes approches pour éliminer ces barrières. Donc, l'idée, c'est de vraiment avoir un deep dive pour mieux comprendre quelles sont les barrières, quelles sont les recherches derrière ce processus et comment on peut s'adresser et comment on peut faire le suivi et le rapport de toutes ces activités. S'il y a quelqu'un de mon équipe, s'il vous plaît, allez-y. À demain levée. Donc maintenant, je vais donner la parole à Martha pour qu'elle puisse décrire un ou deux points à partir des réunions. Salut Martha. Est-ce que vous m'entendez? Salut à tout le monde. Pour moi, quelques aspects qui ont été discutés dans les réunions avec quelques pays, je peux mentionner des aspects, par exemple, au modèle du partenariat, surtout pour ces pays qui sont en train de développer le MOIP. Et pour être clair par rapport aux implications des différents modèles de partenariat, si c'est le partenariat modèle A ou B, c'est un travail très rapproché avec le laboratoire Cornell et c'est vraiment quelque chose de critique et les pays savent cela bien. Sinon, le partenariat C, c'est le pays vraiment qui lidère, qui dirige le processus et il faut avoir une organisation de recherche très, très forte dans le pays pour lidérer le projet. En ligne avec cela, lorsqu'il s'agit du MOIP, l'identification du partenaire de recherche et de l'équipe d'évaluation doit être très, très bien considérée. Il y a quelques pays où cela n'a pas été complété encore. Il y a des consultations qui doivent se compléter encore pour avancer avec le processus. Et on doit commencer immédiatement. Le partenaire de recherche et l'équipe d'évaluation travaillera de manière très rapprochée et aura la confiance des institutions de sécurité du pays. Et donc, doit bien connaître le domaine et doit faire des analyses de capacités très spécialisées, très spécifiques. Et le chercheur leader du pays aussi doit participer du processus. Il y aura un fort engagement avec Cornell dans le modèle A ou B. Et ça doit commencer de manière immédiate pour que les pays sachent ce qu'ils peuvent espérer du processus et pour gérer les attentes, etc. Lorsqu'il s'agit du financement, je crois qu'il y a quelque chose que l'on a discuté plusieurs fois. Peut-être il y a un pays qui ne comprend tout à fait bien s'il préfère que l'argent va à travers le gouvernement ou bien une agence de l'ONU. C'est le pays qui doit faire ou mener des consultations internes, mais ils doivent savoir que si c'est le gouvernement, si c'est le gouvernement, ça peut seulement aller à une entité gouvernementale, par exemple le ministère de Finances, le ministère de l'Économie, de la Planification, etc. Mais ça ne peut pas aller à une institution de sécurité. Donc, ce sont les règles qui ont été établies à travers le fonds fiduciaire multipartenaire qui gère l'initiative et le PNUD. Si c'est à travers le gouvernement, le pays doit mener des consultations et connaître bien tous les détails. Également, il doit fournir des documents de soutien Et si c'est le gouvernement, si c'est un protocole d'entente, il faut le signer encore une fois. Cela peut prendre du temps et on a vu des cas dans d'autres cas où cela a pris beaucoup de temps. Il faut également fournir des formulaires nécessaires pour que tout soit prêt, pour que les modèles soient préparés et approuvés par les différentes équipes, le secrétariat en consultation avec le DPO, avec toutes les équipes, et pour l'envoyer au comité. Ça sera bien de faire tout cela pour assurer le déboursement et pour avoir une image générale de tout le processus. Merci Deb. Voilà. Oui, je crois que ça, c'est très important. Il y a plusieurs pays qui ont demandé ou posé des questions par rapport à la ligne de temps. Ça, c'est le processus et le temps que cela va prendre pour qu'un pays puisse passer de l'étape de démarrage jusqu'à avoir un projet complètement approuvé selon les normes et les standards. On a eu déjà quelques réunions initiales avec quelques pays, mais avec d'autres pays, on est en train de l'organiser. Mais nous n'avons pas oublié les lettres que l'équipe EIF a reçues des pays en indiquant la période dans laquelle le secrétariat de l'EIF fournira du soutien technique ou la mission de l'ONU. Donc, nous travaillons avec les modèles, avec le point focal de chaque pays. Deb vient de le mentionner, mais nous avons essayé l'idée, c'est de travailler dans une ligne de temps de 6 semaines pour avoir un PRODOC et les annexes complétées et pour qu'ils puissent être soumis au secrétariat de l'EIF pour qu'ils puissent le passer en revue. Nous travaillons avec tous les pays pour garantir que toutes les soumissions traversent ou soient en conformité avec certains standards de qualité. Nous avons décidé de travailler avec cette ligne de temps et après, l'EIF, on fournira les documents au comité technique, au comité exécutif et les deux équipes ont besoin de 10 jours pour passer en revue les documents avant de faire une annonce officielle et le déboursement. Mais bien sûr, Deb peut faire des commentaires additionnels. Deb? Merci, Martha. Oui, c'est un projet, la ligne de temps est générale, mais on peut l'élargir, on peut donner plus de temps ou moins de temps pour le deuxième cycle de programmation. Ici, je vous montre probablement la partie la plus importante. Donc, si on reçoit un PRODOC très solide dans la première présentation, peut-être il faut faire une seule révision et directement passer aux commentaires. Cependant, il y a d'autres cas où quelques activités doivent être reconçues ou bien elles doivent être changées complètement. Et dans le MOWIP, surtout, il y a parfois des cas où les activités doivent vraiment changer pour que les activités vraiment puissent aborder les barrières et les obstacles présentés dans le rapport. Parfois, il s'agit de deux ou trois ou peut-être quatre activités qui doivent être changées. Donc, tout cela est acceptable. si on pose les questions ou si le TPCC doit faire une révision et décider quelles sont les barrières qui sont soulignées dans le rapport MOIP, pour qu'ils puissent vraiment voir comment concevoir des activités innovantes pour vraiment surmonter ces barrières. N'oubliez pas que le fonds ELSI s'agit d'un programme pilote qui a été conçu pour développer des approches innovantes et pour vraiment motiver et encourager la participation significative des femmes en uniforme dans les opérations de maintien de la paix, en fournissant des fonds pour les TPCC et proposer des solutions innovantes.
Donc, si nous prenons 4 cycles, par exemple, de consultation, et nous serons ravis de, à n'importe quel moment, nous serons ravis de passer en revue votre pensée, votre compréhension pour que vous ne deviez pas créer un produit complet. Vous pouvez, par exemple, avoir besoin d'une réunion sur votre réflexion. Vos réflexions, par exemple, voilà différents types d'activités que nous aimerions adresser. Donc, nous aimerions avoir une réunion de brainstorming avec vous pour que si par exemple vous aimeriez avoir une réunion de brainstorming, de tourbillon d'idées avant de créer votre projet, nous pouvons le faire à mi-chemin entre la version 1, 2 ou 3. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais passer la parole à Agathe. Merci Deb, et comme vous avez bien dit, cette frise chronologique passe par bien comprendre chaque pas entre maintenant et le moment d'approbation de votre projet. Comme vous le voyez, il y a une série des prérequis et cette frise chronologique vous aide à comprendre les prérequis. Une question qui se présente en permanence, c'est sur la durée du projet. Quand est-ce que le projet commence? J'aimerais dire que nous avons commencé par compter les 2 années au moment de la date de transfert de fonds. Donc, ça peut prendre jusqu'à 18 semaines. Ça dépendra de la période entre maintenant et le moment où nous serons en mesure de faire le virement d'argent. C'est là où le projet commence à démarrer. C'est ça où la date, où la période démarre, le cycle démarre. C'est depuis le moment du transfert de fonds. Et une autre chose à considérer, si vous vous présentez pour un financement flexible de projet, je vous recommande, je vous conseille de penser à la portée de votre projet, 5 activités maximum qui sont viables, qui sont vraiment réalistiques et qui pourront être mises en place dans une période de 2 ans. Et nous aimerions mettre en relief que ces activités considèrent les 3 barrières principales que vous avez déjà identifiées dans votre rapport et je peux faire une revue de chaque activité, votre point focal va le faire durant votre réunion individuelle, mais nous sommes là pour vous soutenir pour développer un cadre de résultats fort parce qu'il faut penser ou réfléchir sur comment chaque activité va contribuer à adresser ces barrières. Donc là, ça, c'est pour le financement flexible de projet. Comme Deb a dit, vous pouvez utiliser le cadre original et les différents résultats et vous allez aussi retrouver les indicateurs et c'est en des annexes. Si vous vous présentez pour réaliser une évaluation MOWIP, une chose passe pour bien comprendre la méthodologie et les outils en détail, parce qu'en ce moment, on vous demandera de préparer une proposition technique. C'est le moment de penser sur Par exemple, penser à l'équipe d'évaluation et de recherche, c'est bien de savoir comment la méthodologie agit et cela implique par exemple un groupe de lecture en anglais ou espagnol, un cercle d'études pour que vous puissiez discuter de la méthodologie ensemble. Nous vous encourageons de vous inscrire à ce groupe de lecture. Il y a quelques retours d'informations sur le MRA, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est quelque chose sur laquelle on peut réfléchir. Qui sera l'entité de coordination, par exemple, et aussi l'ouverture des différents comptes de grands livres, par exemple. Donc, c'est ça ma contribution pour le moment. Merci Agathe, vous avez mentionné des points clés et qu'il faut garder en tête. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Marvel. Depuis votre expérience sur le travail de soutien à plusieurs projets durant le deuxième cycle de programmation et aussi en matière d'aider les projets de point focal. Et puis, je vais passez la parole à Adélaïde. Niama, vous avez la parole. J'aimerais ajouter au point signalé par les collègues un aspect d'importance auquel il faut réfléchir au moment de développer le document de projet. Ça passe par penser à l'aspect durabilité. Et durabilité et innovation, ce sont deux composantes très importantes. Il faut Ce n'est pas question de tout simplement cocher la case. Il faut bien y réfléchir parce que lorsque vous développez un projet, la durabilité est un aspect très important. Il n'est jamais trop tôt pour penser à la durabilité lorsque vous développerez votre cadre d'évaluation ou d'autres composantes. Réfléchissez à la durabilité et à la innovation. Un autre point qui a surgi de nos réunions de troisième cycle, c'est aussi la possibilité que vous vous engagiez avec une autre institution de sécurité qui a entrepris un modèle semblable au vôtre pour avoir un échange. Il y a un couple de pays qui l'ont fait, un ou deux, et il y a certains pays, il y a quelques institutions de sécurité qui sont dans le troisième, le premier, le deuxième cycle, qui ont un modèle de partenariat. Vous pouvez donc avoir l'occasion d'avoir un échange en ligne, par exemple, une réunion d'échange virtuelle pour apprendre sur les leçons apprises, parce que comme ça, ce sera plus facile pour vous d'entreprendre vos projets, parce que vous avez déjà vu les travaux entrepris par d'autres, et par exemple, pour éviter les erreurs qui ont été déjà faites et pour faire en sorte que le projet avance d'une manière plus fluide. Donc, cette occasion existe, vous pouvez en discuter avec votre point focal de projet. Donc, voilà les deux remarques que je voulais partager. Merci, Deb. Je vous repasse la parole. Merci, Madame Marvel. C'est un point excellent à mentionner. Nous avons commencé à le faire avec quelques projets dans notre troisième cycle. Il y a des projets qui ont recueilli une expérience assez riche et c'est bien de rester en contact avec ces projets-là pour tirer avantage des leçons apprises. Et c'est ça, ça s'applique à tous les projets, que ce soit les projets de financement flexible ou d'autres. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Adélaïde, vous aviez levé la main. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, merci. J'ai quelques questions. C'est la première fois que nous avons avancé beaucoup. C'est la première fois que nous avons tant avancé dans notre projet. Donc, ma question est, durant la discussion et durant la consultation interne, nous avons pensé que c'était mieux pour le MOUIP d'utiliser le partenaire de développement de l'ONU dans les pays et pour les GSU, La partie GSU, nous avons décidé d'utiliser le compte gouvernemental. Est-ce que c'est permis? Parce que ce sont deux aspects différents de candidature. Est-ce que nous avons la permission de le faire? Nous évaluons cet aspect-là avec notre agent administratif. Nous croyons qu'il y a une manière de le faire, mais nous n'avons pas eu cette variation particulière par le passé. Donc, nous travaillons avec notre agent d'administration pour évaluer comment gérer cette question. Ça ne devrait pas être un problème, mais nous allons vous tenir au courant au fur et à mesure que nous avançons dans les aspects bureaucratiques au sein du système de l'ONU. Parce que, oui, bien sûr, merci, merci de ça. Ma deuxième question est sur l'organigramme du projet. Vous avez indiqué que vous nécessitez que nous mettions les noms dans l'organigramme des différents postes qui seront remplis. Donc, la première sous-question, vous demandez d'avoir le nom du leader de l'équipe ou de la totalité de l'équipe. La deuxième question, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui participeront au projet, par exemple, une personne qui a été embauchée de manière périodique, par exemple, ou temporaire, qui se passe-t-il avec les membres du projet? Et, par exemple, il y a des membres qui doivent remplir d'autres postes ailleurs. Est-ce que nous devons mettre, par exemple, le nom de la personne qui va nous remplacer à un certain moment? Est-ce que nous devons envoyer des documentations, une documentation mise à jour pour indiquer ces changements pour les organigrammes? C'est pour nous assurer d'avoir un leader d'équipe, pour nous assurer de communiquer avec les bons individus qui ont été affectés dans les pays. Pour la totalité de l'équipe, nous n'avons pas besoin d'avoir une liste pour la totalité de l'équipe. Si vous avez un leader de projet et que vous avez quelqu'un qui est le responsable des recenseurs ou les points focaux pour les recenseurs, nous ne prescrivons pas comment ça doit se présenter, mais c'est pour tout simplement nous assurer de communiquer avec les bonnes personnes dans l'équipe. Lorsque vous allez travailler avec l'Université Cornell et l'INB, ce sera assez utile d'avoir le nom du leader avec lequel vous travaillez au sein de l'Université Cornell. Pour le clarifier, ils ne sont pas les gestionnaires, c'est le point focal du Kenya qui sera le gestionnaire. Mais pour s'assurer que tout le monde qui contribue à ce processus MOWIP soit mentionné dans cet organigramme. Et lorsque les personnes sont postées ailleurs, il faut mettre à jour l'organigramme. Donc voilà comment nous utilisons l'organigramme. L'idée, c'est que ce soit utile pour tout le monde dans notre équipe, pour que tout le monde sache qui sont les différents points focaux aux différents niveaux. Par exemple, vous pouvez avoir une personne responsable des finances, vous pouvez avoir un spécialiste des communications qui s'y est engagé, et c'est pour nous assurer que nous communiquons avec les personnes correctes. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Adélaïde? Oui, dernière question, juste une curiosité. Et nous nous sommes présentés pour GSU Premium et il y a une entreprise qui est engagée. Une fois que nous allons recevoir l'approbation, c'est-à-dire que nous sommes restreints à approuver cette compagnie, cette entreprise pour les prochaines 3 années, mais si. Est-ce que si par exemple on incorpore un bataillon, est-ce qu'on est autorisé pour l'ajuster pour un bataillon? Oui. La prime sera approuvée pour la dimension d'une compagnie militaire. Donc, les fonds peuvent être utilisés pour des activités supplémentaire dans le cadre de l'initiative ELSI. Par exemple, améliorer les conditions de vie ou les conditions de travail des femmes dans les pays, ou bien des activités supplémentaires pour soutenir les femmes pour être déployées, c'est-à-dire les différents types d'activités. Si un pays à l'occasion et en consultation directe avec le DPO, et ce pays a fait un déploiement d'une autre unité, et vous pouvez représenter votre candidature dans un cycle suivant pour un bataillon, par exemple, pour une unité de dimension bataillon. Mais dans ce cas, c'est le troisième cycle de programmation et nous avons pour but de travailler avec le Kenya, avec le MOWIP et avec une prime pour le genre de dimension compagnie. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question?
Très bien. Donc, avant de inviter Anaïm et Madim à prendre la parole, je voudrais inviter les collègues de DICAF qui pourront parler un peu du cercle de lecture. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, chers collègues. Je suis Rina de DICAF, le Centre de Genève pour le secteur de la gouvernance de la sécurité. Nous avons aidé les pays à mettre en place la méthodologie MOWIP. Merci, Depp, pour me donner la parole. Et merci, Agathe, pour avoir mentionner le projet pilote pour avoir décrit les différentes initiatives et activités. À DICAF, nous avons un cercle de lecture de MOWIP qui est lié un peu avec vraiment approfondir la connaissance de cette méthodologie. Si les équipes et les pays connaissent davantage les détails de la méthodologie, les défis potentiels, et de cette façon, nous allons tous pouvoir nous anticiper aux possibles obstacles. À DICAF, donc, nous avons piloté le projet DICAF Reading Circle, le cercle de lecture. On a eu une séance ce matin. Et je vais encore une fois partager l'email du service de support. Vous pouvez contacter Agathe ou bien le helpdesk. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez la question sur le chat ou vous pouvez me contacter. Merci. Merci beaucoup, Rina. Oui, nous encourageons tout le monde à participer à ces cercles de lecture. Maintenant, je voudrais donner la parole à Naïm pour qu'il puisse partager des détails finaux pour compléter le modèle. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Pour le budget du projet, je voudrais à ce moment-là mentionner quelques erreurs communes que nous avons observées dans les projets précédents pour pouvoir nous assurer que ces erreurs ne se répètent plus ou bien que ils puissent les présenter ou qu'ils puissent présenter le modèle de la manière la plus adéquate possible. Nous avons vu quelques erreurs avec avec le processus de compléter l'information de manière manuelle où il y a des formules déjà incluses. Nous avons une feuille de calcul Excel et dans la plupart des cas, il y a des formules incluses déjà. Donc, lorsqu'il y a une formule, veuillez ne pas compléter cela de manière manuel parce que sinon, cela va générer un budget inexact. Une autre erreur commune, habituelle, c'est de ne pas choisir la catégorie du menu d'options. Vous allez voir que la colonne C du modèle de l'Excel, vous allez trouver un menu avec une liste qui s'ouvre et qui montre les 8 catégories que vous allez choisir. Donc, regardez. Si vous remplacez cela avec une autre catégorie, ça ne va pas parce que ça, ce sont les catégories de UNDG. Si vous ne choisissez pas la catégorie correcte, vous aurez un budget inexact. Donc, assurez-vous que vous choisissez cela depuis la liste d'options. Nous avons ici le sous total dans la monnaie locale et aussi en dollars. Et voilà aussi les dollars de la subvention. Donc, vous devez faire en sorte que cela soit correct. Et rappelez-vous qu'il y a des formules, donc vous ne pouvez pas remplir cela de manière manuelle. Ici, ça vient de la liste détaillée et bien sûr, cela doit être aligné avec ce que l'on observe dans le rapport. Le plus important à vérifier et à assurer, c'est que le total et le sommaire ou le total ici soient le même. S'il y a une différence, donc il faut corriger cela. Ce sont des points clés que vous devez considérer. On a donné des instructions dans la feuille de budget et nous vous recommandons de continuer avec ces instructions. Et nous savons qu'avec ces instructions, vous allez pouvoir compléter et préparer un budget exact. Comme vous pouvez voir ici dans les colonnes G, H et I, là-dessus, vous ne pouvez pas remplir de manière manuelle. Vous allez trouver une explication aussi sur le site web et là, vous allez trouver ces informations. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous mentionner. Merci. Voilà un aperçu des erreurs plus habituelles dans les budgets. Maintenant, Naïm est devenu un expert vraiment en remplissant et en trouvant les erreurs dans ses modèles et dans ses processus. Navin peut-être peut partager avec nous quelques aspects de communication et comment vraiment défendre et souligner l'impact de notre projet. Nivine, allez-y. Merci, Déborah. Nous vous encourageons à investir du temps pour développer des plans de communication pratiques et efficaces. À ce point-là, il y a une idée d'avoir des efforts spécialisés en communication. Ça, c'est important parce que cela va vous permettre d'augmenter la visibilité de ce projet et de tous les projets. Et cela va nous aider aussi pour le projet. Ça, c'est très, très important d'avoir un impact à long terme pour les activités que vous êtes en train de développer. En outre, c'est très important de travailler de manière anticipée pour que quand vous développez le projet de communication, c'est important d'avoir une ligne de temps réaliste, y compris la coordination avec le secrétariat de l'EIF et pour vous aider dans le processus. On peut avoir des guides par rapport à utiliser les informations de l'EIF, etc. C'est en général, mais ça, c'est le point clé que je voulais souligner. Et pour les activités de communication spécifiques, lorsqu'on arrive à ce point de planification, on peut de cette manière déterminer comment on peut le faire plus engageant ou plus innovant. Ça, c'est un commentaire général à ce point-là, mais vous pouvez nous informer et l'inclure dans le plan de communication et à ce point-là. Merci. Encore, il y a des points clés par rapport à l'impact de communication, la longévité et la sensibilisation. Très bien, nous sommes à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je voudrais remercier tout le monde pour vos questions et pour votre contribution. J'ai hâte de vraiment commencer ce chemin conjoint avec la préparation du PRODOC et bien sûr, nous avons hâte de vous soutenir avec tout le processus en partageant des leçons de vos projets avec les autres pays. J'espère que cela permettra qu'ils nous rejoignent dans les autres projets. Merci beaucoup aux interprètes qui nous ont accompagnés tout au cours des 10 séances. Merci à Scrivanec et à l'équipe. Merci beaucoup à nos collègues de la secrétariat LC pour votre soutien au TPCC et nous avons hâte de vous revoir dans la prochaine réunion. Aussi, merci beaucoup aux collègues de DECAF et les collègues de Cornell pour nous soutenir avec le mot WIP. Je sais qu'il y a un collègue de DPO dans l'appel qui vient de nous rejoindre, donc merci. Et on veut vraiment commencer ce processus. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon après-midi et on se revoit dans les réunions individuelles en ligne. Au revoir, merci.